plusieurs m'ayant demandé mon avis sur les questions qui concernent Israël, spécialement à la lumière des prophéties bibliques. Notre émission aujourd'hui sera consacrée à ce sujet fort intéressant. Il est évident que nous laisserons soigneusement de côté toute préoccupation politique. Nous nous laisserons guider par des considérations exclusivement religieuses. Voici les questions qu'un chrétien est souvent amené à se poser concernant Israël. La formation de l'État d'Israël a-t-elle une signification religieuse pour un chrétien? Sommes-nous à notre époque les témoins de l'accomplissement d'une prophétie biblique concernant le retour des Juifs en Palestine? Le peuple juif est-il encore le peuple de Dieu, dans le sens du peuple élu de l'Ancien Testament? Nous voulons répondre à ces questions aussi clairement que possible. Pour cela, il faut se servir de la Bible et remonter jusqu'à la source où tout a commencé, c'est-à-dire jusqu'à Abraham, l'ami de Dieu. Voici la première promesse faite à cet ancêtre du peuple juif, alors qu'il s'appelait encore Abram. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, c'est-à-dire la Palestine actuelle. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ». C'est ici la première promesse explicite relative au pays de Canaan. Plus tard, cette même promesse sera renouvelée, mais avec plus d'emphase encore. Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi et l'ouest et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Selon la promesse, Abraham prit possession de ce pays. C'est d'ailleurs là que reposent ses cendres, en attendant la résurrection. Mais ce pays n'était pas une fin en soi. Il ne constituait pas le but suprême. C'est souvent ce que l'on oublie lorsqu'on évoque ce sujet. Le pays de Canaan n'était que le symbole du royaume que Dieu donnera en partage à tous ses élus. Il est d'ailleurs intéressant de lire l'Épître aux Hébreux sur ce point, dans le Nouveau Testament. Au chapitre 11, il est révélé que c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, comme ses descendants, se sentait étranger et voyageur sur la terre. Leur pérégrination montre qu'ils cherchaient une patrie. Or, il est écrit que s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ceux qui aujourd'hui prétendent que la réintégration de la Palestine par les Juifs est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham commettent trois erreurs fondamentales. Premièrement, ils font de la Palestine le but suprême, le paradis en quelque sorte. Ce n'était certes pas l'avis des patriarches, comme nous venons de le voir, car ils avaient en vue quelque chose de meilleur. Deuxièmement, ils ne semblent pas avoir lu dans leur Bible que la promesse faite à Abraham a déjà été réalisée dans sa totalité. Troisièmement, ils oublient aussi la réalisation profondément spirituelle de cette promesse. Mais revenons à une autre répétition de cette promesse, en Genèse chapitre 15. Elle comporte un élément prophétique très intéressant. En effet, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. » En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » vous avez reconnu dans cette prophétie étonnante l'annonce de l'installation des Hébreux en Égypte. Après l'épisode de Joseph vendu par ses frères et leur esclavage dans ce pays sous le fouet des pharaons. Mais la promesse était là, ils reviendront ici. Certains font remarquer que cette promesse n'est pas encore totalement réalisée, puisque les Israélites n'ont jamais occupé un territoire aussi vaste que celui que Dieu avait promis, à savoir du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Ceux qui font cette remarque se plaisent évidemment à voir, dans les événements du Moyen-Orient, l'accomplissement définitif de cette promesse. Emportés par leur romantisme, ils n'ont pas lu le texte biblique qui les renseigne pourtant suffisamment. En effet, après leur sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, après avoir retrouvé leur terre promise, Josué, successeur de Moïse, déclare dans son livre que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. N'est-il pas écrit en outre que Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte? Où se trouvent donc ces promesses non encore réalisées? N'est-ce pas faire preuve d'obstination insensée que de vouloir prétendre que Dieu n'a pas encore tenu toute sa promesse sur cette question territoriale, alors que la Bible dit expressément « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. » Nous savons qu'à cause de l'infidélité du peuple, Dieu permit qu'il fût déporté par les Babyloniens et tenu prisonnier pendant 70 ans. Moïse, Josué et les prophètes avaient mis le peuple en garde. Dieu le chasserait du pays et le disperserait sur la face de la terre s'il s'écartait de sa loi. La promesse devenait conditionnelle. C'est ce qui se produisit. Une partie du peuple réintégra la Palestine, mais 10 tribus étaient perdues. Abordons maintenant la réalisation profonde, spirituelle de la promesse faite à Abraham. Ici, je vous demande de prêter particulièrement attention à ce texte que nous tirons de la lettre de Paul aux Galates. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, et ceci est fondamental dans ce texte, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. L'orgueil national des Juifs en tant que peuple élu sombre dans cette déclaration de l'apôtre. Il n'y a plus désormais de distinction entre Juifs et païens. S'ils croient en Christ, ils sont confondus dans la même affection de Dieu. L'Israël de Dieu n'est plus uniquement et étroitement la nation juive circoncise dans sa chair. L'Israël de Dieu est le peuple des sauvés en Christ, composé de toutes les races et de toutes les nations, portant en lui la marque de l'Esprit de Christ. Lorsque Pierre écrit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis », ce n'est pas à la nation juive qu'il s'adresse, mais au peuple des chrétiens. Il ajoute d'ailleurs « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, parce qu'ils étaient païens, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu ». Il est évident que tout ce qui précède ne signifie pas que Dieu a rejeté le peuple juif. Paul met ses lecteurs en garde contre une telle pensée. Il semble même indiquer que les Juifs finiront par se convertir. Cette éventualité a agité beaucoup d'esprits dont certains ont versé dans l'extravagance. Si les Juifs doivent se convertir, leur conversion est soumise aux mêmes conditions que les autres créatures vers lesquelles le Christ avait envoyé ses disciples. « Allez par tout le monde, avait-il dit, et prêchez l'Évangile à toute la création. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'y a pas d'exception. » Le Christ est mort pour tous. Il existe de tous foi et obéissance. Comme le dit l'apôtre Paul, si les Juifs ne persistent pas dans l'incrédulité, ils peuvent retrouver la faveur de Dieu. Mais le temps est court. Lorsque le Christ reviendra, il sera trop tard. Pour nous résumer, nous dirons tout d'abord que toutes les promesses faites à Israël concernant la terre promise ont toutes eu leur réalisation complète. Deuxièmement, la formation d'un État juif en Palestine, en nos temps modernes, n'a donc aucune signification religieuse pour le chrétien et ne constitue certes pas l'achèvement de la réalisation d'une promesse ou d'une prophétie. Troisièmement, devant Dieu, il n'y a plus ni juifs ni païens. Ils sont tous appelés à former un seul corps en Christ, la véritable Israël de Dieu.